7h05, Monique, d'abord parlons de cet incendie à La Prairie.
Qui a débuté vers 22h hier soir. Les pompiers de La Prairie qui ont dû faire appel d'ailleurs à plusieurs municipalités voisines pour intervenir sur la rue Jean-Marie Langlois. Incendie généralisé, c'est un bâtiment commercial lié à une entreprise de recyclage, Éco-Service Tria. Eux sont spécialisés dans la récupération des débris de chantier. Donc vous aurez compris qu'on avait beaucoup de matières inflammables sur place. Une cinquantaine de pompiers qui ont combattu le feu et le froid, parce qu'avec les températures cette nuit ressenties de moins 32 avec le facteur vent, disons que ça rend excessivement dangereux ce type d'intervention-là. Les pompiers qui doivent non seulement faire des rotations, mais faire également attention à la glace qui se forme à vue d'œil presque sur leur équipement. On ignore la cause, le bâtiment et malheureusement une perte totale. Il y avait d'ailleurs déjà eu un incendie majeur dans l'immeuble juste à côté qui appartient à la même entreprise en juillet 2016.
Bon, là, je vais présenter le prochain item. Je veux pas rien brûler, mais les gens vont comprendre quand toi, tu vas décrire la nouvelle en question. Quand on dit souvent, c'est parfois un cliché, que la réalité rattrape la fiction ou la fiction rattrape la réalité. Mort suspecte à deux montagnes, le suspect a comparu.
On m'en parle depuis tout à l'heure. Effectivement, la coïncidence est assez hallucinante. L'histoire, donc, la réelle, là, la nouvelle, l'homme de 47 ans qui a été accusé hier en lien avec cette mort suspecte dont on vous parlait hier matin, a été accusé d'outrage à un cadavre et de négligence d'inhumer un cadavre humain. Il aurait gardé avec lui le corps de sa mère décédée pendant plusieurs mois, probablement depuis l'été dernier, si on se fie à l'évaluation de la date du décès à l'autopsie qui a été réalisée hier. La police est débarquée mardi. Ils ont découvert le corps. On comprend que c'est une mort naturelle, mais le temps avait fait son œuvre, donc c'est ça qui a compliqué l'identification. L'homme vivait avec sa mère depuis toujours. Ils vivaient tous les deux reclus un peu, parlaient pas trop à l'entourage. Ils étaient dans le sous-sol d'un triplex de la 2e avenue à Deux-Montagnes. Et lorsque les policiers se sont présentés sur place, ils ont finalement localisé l'individu à Saint-Eustache. Par respect pour la défunte, là, comme je disais, c'est pas nécessaire d'identifier la dame. Parce que lui est toujours détenu là, présentement. La poursuite s'est opposée à sa remise en liberté. Il va revenir en cours demain. Mais c'est passible quand même de 5 ans de prison que de garder un corps comme ça, là, à domicile, pendant une aussi longue période de temps.
Non, mais ça rappelle Norman Bates, là, qui a gardé sa mère. Là, je ne vais pas commencer à tomber dans le scabreux trop. Il est de bonheur, là, mais particulier. Et hier, ben, pour les gens, il y a des gens qui comprennent ce qu'on veut dire. Hein?
Oui, ben, en tout cas, c'est les échos que j'ai depuis tout à l'heure. J'ai pas vu l'épisode moi-même. Mais
on ne veut rien brûler pour ceux qui l'ont et celles qui ne l'ont pas vu. Je veux revenir en conclusion sur l'histoire de ce prédateur, là, ce psychopathe, qui avait obtenu la permission de la juge de pouvoir interroger la mère, de poser des questions à la mère d'une petite fille qu'il a violée.
Oui, et j'ai eu beaucoup de ce que j'appellerais des échos de magistrature depuis hier. L'affaire a fait friser les oreilles vraiment de plusieurs magistrats, de juristes également, qu'ils soient retraités ou non à cette heure-ci. On parle d'un certain pouvoir discrétionnaire qu'aurait pu utiliser la juge. Et c'est assez unanime selon ce qu'on m'a rapporté. On aurait dû l'appliquer en pareil contexte. Oui, respecter les droits de l'accusé, c'est clair, mais protéger également la mère de famille, d'autant plus qu'on avait affaire ici à quelqu'un qui manipule le système, comme on vous le racontait hier matin, depuis 3 ans et demi. Et qu'est-ce que la loi dit? On a vérifié également. Un accusé peut contre-interroger évidemment, des témoins, mais pas sa victime et pas un témoin de moins de 18 ans. Tu en parlais, tu as vu des causes dans le passé. Ça, c'est réglé. Et le juge va nommer un avocat qui va agir comme ami de la cour là, pour le contre-interrogatoire et peut l'arrêter n'importe quand si ça devient abusif. Concernant les adultes témoins, comme dans ce cas-ci, la mère de l'enfant, c'est écrit noir sur blanc dans le code criminel qu'on peut également faire la même chose, nommer un avocat qui va mener ce contre-interrogatoire-là. Et n'oublions pas qu'hier matin, avant hier matin, en fait, il a congédié son avocate. Elle était disponible, prête à mener ce contre-interrogatoire-là ou à se rendre disponible.
Mais non, mais ça n'avait aucun sens.
Et parmi les facteurs à considérer, il y en avait plein qu'elle aurait pu prendre, là, entre autres, la nature de relation entre témoin et l'accusé. Témoin et la mère de la petite victime.
Ta fille s'est fait violer par ce fou-là, puis ce fou-là veut te poser des questions, puis la magistrature permet qu'on fasse ça. Hey.
Et on m'a dit, on m'a répété, le juge est maître de sa salle de cours et c'est une décision qui aurait dû être prise peut-être autrement.
Merci Monique. 7h dans 30 secondes. Le Pont Mercier.